Bienvenue au balado du collectif de recherche Femmes en vie. Je suis Alexandra Vincent, étudiante au doctorat en service social à l'Université d'Ottawa. Je partage le micro avec mes collègues Isabelle Côté, professeure en service social à l'Université Laurentienne, et Simon Lapierre, professeur en service social à l'Université d'Ottawa. Dans cet épisode, on discute du concept d'aliénation parentale. On lance l'épisode en ce 25 avril, Journée internationale de sensibilisation à l'aliénation parentale. Bonjour vous deux.
Allô.
Allô Alex.
Donc le 25 avril, c'est une journée qui vise à sensibiliser un public large sur l'aliénation parentale. Ça existe depuis 2006 au Canada, mais c'est aujourd'hui souligné dans plus de 25 pays, dont plusieurs États aux États-Unis, en Belgique, en France, au Brésil, en Suisse, en Australie et ailleurs. La journée est aussi nommée, je ne sais pas si vous saviez ça, Isa et Simon, Bubbles of Love Day depuis 2010. Donc oui, on fait des bulles de savon pendant au moins 10 minutes en l'honneur des enfants qui devraient pouvoir aimer et être aimés par leurs deux parents sans peur ni culpabilité. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, on va revenir sur de quoi on parle quand on parle d'aliénation parentale, comment et pourquoi le concept est mis de l'avant, voire a une certaine popularité, et pour quelles raisons certaines personnes ou des groupes contestent son utilisation. Et avant d'approfondir un petit peu le sujet, j'ai une surprise pour vous. Je reviens avec un quiz.
Yeah!
On aime ça, les quiz. Donc, comme d'habitude, comme c'est la seconde fois qu'on le fait, je vais vous lire les questions et on va revenir sur les réponses là, à la fin du balado. Donc, première question. Et peut-être aussi, j'aimerais juste faire un avertissement, là. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, OK? Donc, ce sont tous des vrais ou faux. Première question. Richard Gardner, le père de l'aliénation parentale, publiait dans les meilleures revues scientifiques. 2. Docteur Lapierre s'est fait traiter de fou de Dieu par un éminent psychologue dans une conférence scientifique. C'était très récemment. Troisième question. Pour Hubert Van Gisegem, dans 50% des dossiers litigieux en matière de divorce, on retrouve de l'aliénation parentale de sévère à moyenne. Prochaine question. Au Québec, la loi sur la protection de la jeunesse reconnaît l'aliénation parentale comme une forme de mauvais traitement psychologique. Et dernière question, les mères sont capables d'aliéner leur enfant de façon inconsciente, voire par télépathie. Donc, on va revenir sur ces questions un peu plus tard. Mais avant tout ça, Simon, peux-tu nous expliquer de quoi on parle quand on parle d'aliénation parentale?
Bien. Je pense que c'est d'abord important de nommer que l'aliénation parentale est un concept extrêmement contesté et controversé. Et un des problèmes qui est associé au concept d'aliénation parentale, c'est qu'il n'y a pas de définition très claire ou consensuelle de qu'est-ce que serait l'aliénation parentale. Et d'ailleurs, il faut dire qu'il n'y a aucune instance internationale crédible, disons, qui a reconnu le concept d'aliénation parentale. Qu'on pense à l'ONU, qu'on pense à l'Organisation mondiale de la santé, elles n'ont pas du tout reconnu ce concept-là. Et donc, on n'a pas internationalement une organisation là, qui aurait proposé un concept, une définition de ce concept-là qui ferait l'unanimité. Donc, c'est un des problèmes, là, c'est lié à l'absence de définition claire et consensuelle du concept. Par ailleurs, c'est clair que ce concept-là est d'abord apparu dans les années 80 et on attribue généralement les origines là, de l'aliénation parentale aux travaux de Richard Gardner, auquel tu faisais référence dans le quiz, on y reviendra, qui lui, en fait, a parlé initialement du syndrome d'aliénation parentale. Donc, on entend encore des fois parler du syndrome d'aliénation parentale. Ça vient de là. Et pour Gardner, en fait, le syndrome d'aliénation parentale, c'était un trouble chez l'enfant. C'est vraiment l'enfant qui développait un trouble là, d'ordre psychiatrique, un trouble de santé mentale, et qui se manifestait chez l'enfant, en fait, quand un enfant rejette un de ses parents, généralement son père, sans raison valable et due généralement à toute une campagne de dénigrement qui aurait été orchestrée par sa mère et qui fait en fait amener l'enfant même à croire, par exemple, que son père l'aurait agressé sexuellement alors que ce n'est pas vrai et qui amène l'enfant à rejeter donc son père. Donc pour lui, Garner, c'était vraiment un trouble chez l'enfant, ce syndrome d'aliénation parentale-là. Il y a encore des auteurs qui continuent à parler et je dirais des auteurs et des intervenants qui continuent aujourd'hui à parler du syndrome d'aliénation parentale. Hubert van Gazegen, par exemple, parle encore régulièrement du syndrome comme un trouble chez l'enfant. Par contre, au Québec, notamment, la majorité des auteurs, des intervenants vont plutôt parler de l'aliénation parentale. Et de plus en plus, on en parle plutôt comme une dynamique familial dysfonctionnel plutôt que comme un trouble de santé mentale chez l'enfant. Donc, l'aliénation parentale, ce serait quoi pour plusieurs auteurs? Ce serait une dynamique familiale qui est dysfonctionnelle dans laquelle on a un parent qui est aliénant, un enfant qui est aliéné et un parent qui est rejeté par l'enfant. Et pour certains auteurs, il faut vraiment avoir ces trois éléments-là pour pouvoir conclure à une dynamique d'aliénation parentale. Par contre, hein, ça s'arrête pas là. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que on peut parfois conclure à l'aliénation parentale sans qu'on ait nécessairement tous ces éléments-là dans une dynamique, mais on a des auteurs, des intervenants qui vont plutôt conclure à l'aliénation parentale sur la base d'un comportement de l'enfant. Donc, à partir du moment où un enfant rejette un de ses parents, ça peut amener certains intervenants, experts, auteurs à conclure que c'est une situation d'aliénation parentale. Et on va souvent inférer, dans le fond, que la cause, même si on n'a pas observé de comportement chez le parent de cet enfant-là, on va dire, vu que l'enfant rejette son père, par exemple, ben c'est sûrement dû à des comportements de la mère. Donc, on va inférer des comportements chez la mère et dire que l'enfant, s'il rejette son père, c'est parce qu'il a été brainwashé, programmé ou influencé par la mère. Et on va avoir aussi, dans certaines situations, on va conclure à l'aliénation parentale uniquement sur la base des comportements des mères. Donc, une mère qui est perçue comme nuisant au maintien des contacts entre l'enfant et le père, comme dénigrant le père, comme ne maintenant pas une image positive du père. Tout ça peut amener là, des intervenants ou des auteurs à dire que c'est des situations d'aliénation parentale uniquement sur la base de certains comportements de ces mères-là. Et à cet effet-là, on parle aussi parfois uniquement de comportements aliénants ou de comportements qui seraient des indicateurs de risque d'aliénation parentale. Donc, certains vont utiliser ce comportement-là pour conclure à l'aliénation parentale, mais d'autres vont dire, bon, on peut pas conclure à l'aliénation parentale, mais on peut conclure à des comportements aliénants et à un risque d'aliénation parentale. Donc, il y a certaines distinctions qui existent dans les écrits, mais en même temps, ce qu'on constate sur le terrain, puis tout ça peut vous paraître peut-être un peu complexe, c'est que pour les intervenants aussi sur le terrain, ces distinctions-là sont un peu complexes et que dans la pratique, en fait, les termes syndrome d'aliénation parentale, aliénation parentale, comportement aliénant, risque d'aliénation parentale sont souvent en fait utilisés de manière très, très interchangeable sans faire toutes les distinctions. Et c'est même aussi, je dirais, à tout ça se mêle aussi le concept de conflit de séparation ou conflit sévère de séparation qui est aussi souvent perçu sur le terrain presque comme un synonyme d'aliénation parentale. Et à cet effet-là, des mères, des femmes qui sont perçues comme alimentant un conflit de séparation comme maintenant un conflit ou comme étant hostile à l'endroit de leur ex-conjoint peuvent du coup être aussi accusés d'être des mères aliénantes. Donc on voit que c'est un concept qui est actuellement pas très clair, il n'y a pas de définition consensuelle, mais c'est un concept qui d'une certaine façon est très élastique et je dirais qu'il est utilisé un peu à toutes les sauces dans les cas de séparation ou de séparation conflictuelle là, depuis certainement au Québec depuis 10-15 années.
OK. Merci. Mais aussi, malgré ce flou, toute la confusion là, autour du concept, ça reste un concept qui est fortement mobilisé. Isabelle, peux-tu nous parler un peu plus de qui met de l'avant ce concept-là et pour quelles raisons?
Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a différents acteurs qui ont fait valoir ce syndrome-là ou ce concept-là, incluant bon des avocats, des journalistes et tout ça. Mais quand on regarde de près, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment eu trois groupes d'acteurs qui ont été particulièrement actifs dans la promotion du concept. Le premier groupe, c'est les groupes de défense des droits des pères. Et je dirais d'emblée qu'ils n'ont pas été actifs partout et de la même façon. Ça dépend vraiment des provinces, ça dépend des pays. Et ces groupes-là ont surtout milité pour faire reconnaître, bon, les soi-disant injustices que subissent les pères devant les tribunaux de la famille dans les situations de divorce. Et le concept d'aliénation parentale a été particulièrement intéressant pour eux parce que c'est devenu un levier pour faire face aux accusations de violence et d'abus. Et évidemment, puis je pense que c'est important de le nommer, mais avec la question de l'aliénation parentale, derrière ça, il y a l'idée que les femmes font des fausses accusations, que les enfants mentent. Fait qu'il y a certains éléments du discours des droits des pères qui rejoignent ce qu'on retrouve autour de l'aliénation parentale. Mais au Québec, par exemple, je dois dire que ce qu'on a remarqué, c'est que les groupes de défense des droits des pères n'ont pas vraiment mobilisé le concept d'aliénation parentale, surtout si on compare avec, par exemple, certains États américains ou en Ontario ou en France, où on remarque qu'ils ont été historiquement très actifs à en faire la promotion. Le deuxième groupe qui a mis de l'avant ce concept-là, c'est les chercheurs. Et là, je dois dire qu'ils ont eu une influence énorme au Québec, surtout ceux et celles qui travaillent sur les conflits de séparation et l'aliénation parentale, parce que leurs travaux ont mené à des formations, au développement d'outils qui ont eu beaucoup d'influence et surtout dans le domaine de la protection de la jeunesse. Et ces gens-là, je pense qu'il faut le nommer, c'est pas nécessairement des gens qui ont des mauvaises intentions, c'est des gens qui étaient vraiment intéressés par le bien-être des enfants, par la maltraitance psychologique des enfants, mais on le sait, ils n'ont pas fait les nuances nécessaires pour bien distinguer les situations conflictuelles où l'aliénation parentale peut émerger et les situations de violence conjugale où on ne devrait pas utiliser ce concept-là. Et en fait, il y a certaines de ces chercheurs-là qui ont une vision très, très limitée, une compréhension très limitée de la violence conjugale. Et par exemple, j'ai assisté à une formation, tu étais là, Alex, où la chercheure, pour elle, la violence conjugale, c'est quand il y a violence physique sévère et fréquente. Et ça, c'est quand même assez problématique. Mais peu importe, on a vu que les chercheurs ont eu un poids énorme au Québec. Et finalement, il y a un troisième groupe. Ce sont les experts qui ont eu beaucoup d'influence. Et ici, on parle entre autres là, des professionnels qui produisent des expertises psychosociales et psycholégales. Et certains ont été actifs sur la place publique. On va nommer encore une fois Hubert Van Gazegem. Mais plusieurs d'entre eux sont silencieux, mais vont quand même mettre de l'avant ce concept-là dans les rapports d'expertise. Et ça, ça a une influence énorme devant les tribunaux. Et c'est au point où on a remarqué dans les dernières années en matière de violence conjugale, il y a certains noms d'experts qui circulent auprès d'avocats d'hommes violents, qui savent très bien que ces experts-là vont voir de l'aliénation parentale dans les situations de violence conjugale, et ce qui est évidemment à l'avantage de leurs clients, au détriment de la sécurité des femmes et des enfants. Donc, je dirais en gros, là, c'est les trois groupes d'acteurs qui ont mis de l'avant le concept.
On parle beaucoup là, des enjeux de l'utilisation de ce concept-là dans les contextes de violence conjugale. S'il y a des personnes et des groupes qui dénoncent le concept, qui résistent à son utilisation, c'est bien les personnes qui interviennent auprès des mères et des enfants victimes de violence conjugale. Dans ces contextes-là, on le sait que dès qu'un parent, généralement la mère, dénonce la violence qu'elle subit ou que l'enfant subit, là, que ce soit des formes psychologiques, physiques ou sexuelles de violence, souvent c'est lorsque elle est en démarche là, pour la garde, elle se fait soupçonner d'avoir des comportements aliénants. Donc les personnes, les groupes spécialisés en violence conjugale critiquent ce concept-là à cause de l'effet qu'il a de punir les femmes qui font le choix de dénoncer la violence ou l'historique de violence et aussi l'effet que ça a, les femmes en sont venus. Je me souviens, là, en maison d'hébergement, c'était plus ou moins fréquent dans mes premières années. Mais à un moment donné, les femmes, même celles qui nous appelaient avant de quitter pour venir en maison d'hébergement, avant même d'initier la séparation, elles savaient qu'elles seraient éventuellement menacées d'avoir des comportements aliénants et que peut-être elles risqueraient de se voir retirer des accès. Donc, ça a cet effet-là de les faire taire sur leur historique de violence, bien, l'historique du conjoint à leur égard, mais aussi de se taire sur tous les comportements problématiques des pères qui ont des comportements violents et qui persistent à avoir ces comportements-là quand ils ont la garde des enfants ou des accès, même s'ils sont très réduits, là. Donc, ça, c'est une des raisons là, pourquoi c'est fortement critiqué, en plus de la confusion et du manque de clarté là, du concept. Mais aussi, un truc que je voulais souligner, c'est que ça marche dès que les avocats des pères violents ou les pères violents eux-mêmes ou des experts vont dire qu'il y aurait peut-être des comportements aliénants de la part de la mère, bien, ça va accrocher dans les tribunaux et cette menace-là va planer dans tout le long des procédures là, relatives à la garde des enfants, donc en droit de la famille, mais aussi en protection de la jeunesse. Les mères sont plus souvent perçues comme hostiles dès qu'elles s'opposent au contact père-enfant ou dès qu'elles résistent ou ne sont pas d'accord à ce qu'on passe, par exemple, de accès une fin de semaine sur deux à une garde partagée, par exemple. Alors que les pères qui ont des comportements violents, comme on a déjà mentionné dans des balados précédents, ils ont tout avantage à vouloir faire la coparentalité avec madame, à vouloir élargir les communications, donc être en contact avec elle le plus souvent. Ils bénéficient d'une présomption de bonne foi. Alors qu'on sait très bien que ça s'inscrit là, dans leur schéma de comportement qui continue après la séparation. Donc, dans ces contextes-là, le concept d'aliénation parentale va beaucoup servir ces conjoints-là. Qu'ils utilisent eux-mêmes ou pas le concept, ça va fonctionner. Et à ce sujet-là, dans une recherche de Joan Mayer, vous la connaissez là sûrement, elle avait découvert que quand les mères utilisaient le concept d'aliénation parentale, par exemple, dénonçaient des comportements de leur ex-conjoint qui étaient aliénants ou dénigrants à leur égard là, devant l'enfant, tout ça, ça avait peu d'effet sur les décisions relatives à la garde et aux accès. Donc, c'était un peu balayé aux yeux là, du tribunal. Alors qu'à l'inverse, quand des pères accusaient des mères d'aliénation parentale, il y avait beaucoup plus d'impact sur les décisions et c'était des décisions qui visaient à diminuer les contacts de la mère et l'enfant ou carrément ça menait à un renversement de garde. Donc, la mère qui avait la garde la perdait et on attribuait la garde de l'enfant au père. Donc, parlant de recherche, Isabelle, Simon, vous vous êtes intéressés, vous, à cette question-là de l'aliénation parentale dans les contextes de violence conjugale. Comment vous en êtes venu à vous pencher sur cette question-là? Et je sais que ça fait quelques années, là, j'avais répondu à votre questionnaire de votre première étude quand j'étais encore intervenante. Je sais que ça a évolué beaucoup. Comment, justement, ce phénomène a évolué à travers les dernières années?
Ouais, je pense que c'était 2013-2014, hein, Simon,
dans ces années-là. 2014-2015, oui.
En fait, on a commencé à entendre par l'entremise des maisons d'hébergement qu'il y avait des femmes victimes de violences conjugales étaient accusées d'aliénation parentale. Fait que c'est des intervenantes en maison d'hébergement qui nous ont informés de ça. Mais, puis ça, évidemment, ça nous a inquiétés, mais on n'avait pas de chiffres, il y avait pas d'études au Québec qui ont porté là-dessus. On ne savait pas trop d'où venaient les accusations. Est-ce que c'est un phénomène qui est répandu? Est-ce que c'est marginal? Donc, en 2015, on a décidé de faire un premier projet pilote pour documenter le phénomène, pour un peu aller voir là, c'était quoi ce phénomène-là. Et la façon dont on s'y est pris, c'est qu'on a envoyé des questionnaires dans presque toutes les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales au Québec. Et il y en a une trentaine qui a répondu à l'appel. Et ça, c'était pendant l'été, fait qu'on était quand même assez contents. Et il y a deux résultats assez importants qui ont émergé de cette étude-là. Le premier résultat, c'est que les menaces d'accusation ou les accusations d'aliénation parentale à l'endroit des femmes victimes de violences conjugales, c'est un phénomène qui est à la hausse au Québec, selon les intervenantes en maison d'hébergement. Donc, les intervenantes qui voyaient de plus en plus de femmes dans leur service, comme tu le nommais un peu Alex tantôt, là, qui étaient affectées par ces accusations-là ou qui avaient des craintes par rapport à ce concept-là. Fait que ça, c'était le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est que les principales sources d'accusation, c'était, puis là, les intervenantes pouvaient en cocher plusieurs, là, mais la plus importante source d'accusation, c'était les intervenantes en protection de la jeunesse, suivi des conjoints violents et les acteurs du système judiciaire. Les conjoints violents, ça ne nous a pas trop surpris, on s'y attendait un peu parce que c'est intéressant pour eux ce concept-là, comme on l'a nommé tantôt, mais ça nous a vraiment inquiété de savoir que les intervenants en protection de la jeunesse et des acteurs du système judiciaire, qui sont des gens qui, dans leur mandat, sont censés protéger les personnes vulnérables, assurer la sécurité des mères, des enfants et tout ça, faisaient partie du problème. Et là, je dis à l'époque, parce que ça fait pas si longtemps, mais en 2015, quand on a fait l'étude, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était surtout des menaces d'accusation que les femmes recevaient. Donc, du type, « Madame, si vous continuez de parler en mal de votre ex-conjoint, vous pourriez être perçue comme aliénante. » Fait que c'était beaucoup dans les menaces, dans l'informel et tout ça. Mais ça entrait progressivement dans le vocabulaire de différents professionnels. Mais par contre, ce qu'on a remarqué aussi dans les dernières années, c'est que ça aussi, ça a changé.
Ben effectivement, ce qu'on constate depuis quelques années, on a poursuivi nos travaux dans le domaine, c'est que en fait le problème ne s'est pas résorbé loin de là. En fait, le problème s'est probablement déployé. Ces pratiques-là se sont déployées encore davantage et ce qui était initialement peut-être de l'ordre davantage du discours ou des menaces, comme Isabelle, j'y faisais référence. C'est peut-être davantage formalisé et on a certainement rencontré, là, et on rencontre encore des situations où les femmes sont très formellement là, accusées d'être des mères aliénantes avec toutes les conséquences qui viennent avec. Je pense que c'est important quand même de mentionner, puis Isabelle, tu y faisais référence aussi, la question de la protection de la jeunesse semble être assez unique au Québec. Donc, unique, pas dans le bon sens, là, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens où si on regarde partout ailleurs au Canada ou dans les autres pays où on sait que ce concept-là d'aliénation parentale est aussi de plus en plus populaire, ça semble être vraiment dans le contexte des procédures au niveau du droit familial, au niveau des questions de garde et d'accès, alors qu'au Québec, effectivement, on constate que c'est aussi très, très populaire dans le secteur de la protection de la jeunesse, ce qui soulève tout un autre ensemble là, d'enjeux et de préoccupations, mais ça semble être vraiment propre au Québec. Ce qu'on constate peut-être assez dans les travaux plus récents, c'est qu'il y a des situations assez typiques, en fait, dans lesquelles les accusations d'aliénation parentale surviennent. On y a un peu fait déjà référence là, précédemment, mais c'est typiquement effectivement des situations où les parents sont séparés ou sont dans le processus de séparation, où il y a violence conjugale, mais où la violence conjugale n'est pas du tout reconnue, où elle est reconnue, mais on la voit vraiment comme quelque chose du passé. Donc, à partir du moment où les parents sont séparés, on ne devrait plus parler de violence conjugale. Il n'y a plus lieu de parler de violence conjugale. Donc, une incompréhension, une méconnaissance de la violence post-séparation, notamment, et des impacts post-séparation d'une violence même qui serait passée. Et évidemment, bon, c'est souvent des situations où, plutôt que parler de violence conjugale, on va plutôt appréhender ces situations-là sous l'angle du conflit parental, du conflit sévère de séparation. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que lorsque notamment des enfants disent qu'ils ne veulent pas voir leur père, des parents réagissent, peut-être des enfants réagissent plus ou moins fortement en présence du père ou avant les contacts avec le père. C'est souvent dans ce contexte-là où on va questionner les comportements potentiels de cette mère-là et on va souvent arriver à la conclusion que ce qui explique les réactions des enfants ou le refus des enfants de voir leur père, ben c'est sûrement les comportements aliénants de la mère. Donc, c'est souvent dans ce contexte-là où on arrive à des situations où on va conclure ou accuser même ces femmes-là d'être aliénantes. Et il y a aussi, bon, comme on le disait un peu plus tôt, parfois des comportements chez les mères qui vont aussi être interprétés comme des comportements aliénants. Mais encore là, c'est très, très vaste ce qu'on peut parfois, là, ce que les intervenants peuvent interpréter comme des comportements aliénants, allant de certains certaines paroles ou certains gestes, mais allant aussi à une transmission de l'anxiété de la part des mères, une hostilité à l'endroit de l'ex-conjoint, un maintien du conflit. Les mères aussi qu'on accuse de ne pas promouvoir assez activement une image positive du père. Donc, tout ça sont des situations qui mènent assez, malheureusement, assez typiquement là, à des accusations d'aliénation parentale. Et je pense qu'un élément qui est important de nommer, c'est que oui, c'est souvent une stratégie qui est utilisée par les conjoints violents pour se défendre ou du moins pour détourner l'attention de leur propre comportement. Mais en même temps, c'est important de comprendre que pour que ça fonctionne, parce que Alex, tu as raison de dire que ça fonctionne, mais pour que ça fonctionne, il faut généralement que ce soit repris par des professionnels. Parce que quand c'est juste les pères qui lancent l'accusation, s'il n'y a pas personne s'il n'y a pas un professionnel là, qui rattrape la balle au bon, ça n'aura peut-être pas les effets escomptés. Mais malheureusement, lorsqu'il y a des professionnels, que ce soit des intervenants sociaux, des avocats, des juges, mais aussi très souvent les experts psychosociaux reprennent cette idée-là que ces mères-là sont aliénantes, bien, c'est souvent là que les accusations se formalisent puis qu'on a des conséquences là, pour ces femmes et pour ces enfants-là. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les experts psychosociaux jouent un rôle très important dans ces situations-là. Et on a vu, nous, dans nos travaux, des situations où on avait parfois plein d'acteurs impliqués, où on avait la mère avait une version des faits qui était la même que celle de l'enfant, qui était corroborée par les policiers, qui était corroborée par des intervenantes en maison d'hébergement, qui était corroborée par une psychologue, par exemple, payée par l'IVAC, qui était corroborée par des membres de l'entourage. Et il s'agissait qu'il y ait une psychologue embauchée comme experte dans un dossier et vienne dire « Non, ce n'est pas monsieur qui est violent, c'est madame qui est aliénante », pour que ça fasse parfois, c'est que ça amène un changement radical dans toute l'orientation du dossier avec des conséquences, encore une fois, importantes pour les mères et les enfants impliqués. Et l'autre élément qu'on constate qui est problématique et inquiétant, mais qui est aussi en évolution, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Donc, on conclut à l'aliénation parentale d'une mère, par exemple, qu'est-ce qu'on fait, quelles mesures on met en place. On sait qu'il y a des pratiques qui sont très problématiques. On a des situations où les enfants vont être placés dans des milieux soi-disant neutres pour les déprogrammer de l'influence de leur mère. On a des enfants qui sont parfois placés dans des centres d'accueil ou dans des foyers de groupe pendant des semaines, des mois, même des années, en attendant qu'ils soient reprogrammés et qu'ils acceptent finalement de revoir leur père. On a des situations où on va aller pour un changement de garde total, on va retirer la garde complètement à la mère qui est victime de violence conjugale pour donner une garde exclusive au père qui est violent. Et on a aussi, et ça on le voit peut-être un peu moins au Québec, mais malheureusement, on peut penser que ça s'en vient aussi de plus en plus populaire comme ça l'a été ailleurs, c'est vraiment toute la question des thérapies intensives de réunification et même ce qu'on voit beaucoup, notamment en Ontario, aux États-Unis, c'est même les camps de réunification, là, donc des espèces de bootcamp où on envoie l'enfant soi-disant aliéné et le parent rejeté pendant une semaine ou deux semaines pour vraiment faire une réunification intensive, ce qui sont des pratiques très, très, encore une fois, controversées, mais qui malheureusement semblent être de plus en plus populaires un peu partout et potentiellement au Québec aussi.
Puis, tu sais, par rapport à ça, je pense que ça serait important de rajouter qu'il y a toute une industrie autour du concept d'aliénation parentale, les experts, les thérapeutes, les avocats, qui font de l'argent et qui font de l'argent sur le dos des enfants. Et il y a des gens qui sont en conflit d'intérêts, puis on nommera pas de nom, mais on a vu des gens qui font les expertises, concluent à l'aliénation parentale, et ça s'adonne qu'ils offrent de la thérapie pour thérapie de réunification familiale. Fait que c'est des gens qui font des milliers de dollars sur le dos d'enfants vulnérables. C'est honteux.
Mm-hmm. Tout à fait d'accord.
J'ai aussi vu des experts qui commençaient la thérapie de réunification dans le cadre de leur expertise. Et ça, même au Québec, là, ils brisaient carrément les lignes directrices là, en matière d'expertise. Donc, oui, conflit d'intérêts et beaucoup d'autres problèmes. Mm-hmm. Ben, merci, vous deux. C'était super éclairant. Puis on va suivre là, les recherches et les publications là, qui vont en découler parce que vous n'avez pas terminé d'analyser ce phénomène. Et ben, compte tenu là, que ce concept-là est au contour flou, c'est pas reconnu au niveau scientifique et comme on en a parlé, c'est extrêmement problématique sur le terrain, ben, on s'entend qu'on a de la difficulté à comprendre qu'il existe une journée pour souligner l'aliénation parentale et ben, on ne célébrera pas cette journée-là de notre côté.
Certainement pas, non.
Ben, puis ce serait le fun aussi peut-être de lancer l'invitation à toutes les personnes qui, au cours des dernières années, se sont affichées pour cette journée ou ont pris position pour souvenir cette journée-là. Ce serait intéressant de les inviter à s'informer peut-être un peu plus avant de prendre des positions comme celle-là pour voir à quel point, non seulement ce n'est pas un concept qui fait consensus, mais c'est un concept qui est très controversé puis qui amène à des pratiques très, très problématiques qui, malheureusement, parfois compromettent la sécurité des femmes et des enfants victimes de violences. Donc, ce serait le fun qu'ils s'informent un peu plus avant de prendre ce genre de position-là.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Donc, avant de conclure le balado, on va revenir sur les questions du quiz. Je vais vous les relire et je vous laisse spontanément leur répondre si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, la première question était « Richard Gardner, le père de l'aliénation parentale, publiait dans les meilleures revues scientifiques. »
Je vais y aller avec celle-là. En fait, c'est faux. Il a publié dans certaines revues scientifiques. Mais comme ses travaux sur l'aliénation parentale rencontraient pas les standards de la communauté scientifique, il n'aurait pas réussi à passer là, le processus d'évaluation par les pairs. Donc, il a développé des stratégies comme celle de s'auto-publier. Et Gardner a même créé sa propre maison d'édition qui s'appelle Creative Therapeutics. Et il s'auto-citait régulièrement pour démontrer l'existence du concept d'aliénation parentale. Et là, je veux pas rire, mais c'est presque risible en fait parce que dans le milieu académique, tu es perçu comme étant un peu loser quand tu fais le choix de, tu sais, au lieu de développer un protocole de recherche qui est plus rigoureux et qui va rencontrer les standards de la communauté scientifique, ben tu fais le choix de créer ta propre maison d'édition, de t'auto-publier puis de t'auto-citer. Mais bref, voilà qui est faux.
Pas très prestigieux, comme dirait notre collègue. deuxième question. Docteur Lapierre, est-ce que c'est vrai que vous vous êtes fait traiter de fou de Dieu par un éminent psychologue dans le cadre d'une conférence scientifique?
Ben oui, en fait, c'est vrai, c'est un peu absurde. Et je dois dire que ça ne m'a pas arrivé très souvent de participer à des colloques scientifiques où il y avait comme ça des noms qui étaient un peu lancés, des insultes ou des injures là, un peu qui étaient lancées à certains des conférenciers. Mais dans ce cas-ci, c'est effectivement un des grands adeptes, un des grands promoteurs du concept d'aliénation parentale en Europe qui, dans sa présentation, avait une des diapositives où il disait qu'il y a certaines personne qui lui qualifie de fou de Dieu, qui, en fait, il les accusait de croire les enfants, là, de trop croire les enfants lorsqu'ils dénoncent des abus. Il y avait tout un autre argumentaire que je ne tenterai même pas de vous répéter ici, mais qui, pour lui, Isabelle aussi et d'autres collègues nous qualifiaient de fou de Dieu. Je dois dire qu'il s'est, de façon peut-être très peu convaincante, s'est repris pour dire que pour lui, c'était pas une insulte, c'était seulement de nous qualifier là par rapport au fait qu'on croit les enfants. Mais pour moi, ce que ça illustre surtout, c'est à quel point cette question-là est quand même très, très polarisée et à quel point, malheureusement, lorsqu'on parle d'aliénation parentale, même dans un contexte académique, ça amène souvent à des débats très acrimonieux et malheureusement, certains auteurs qui peut-être n'ont pas les arguments scientifiques pour défendre leur point de vue par rapport au concept, ben, vont préférer attaquer de façon peut-être un peu plus personnelle ceux qui ont un point de vue différent. Mais ça illustre quand même à quel point c'est une zone très, très complexe, polarisée qui mène parfois à des débats très acrimonieux là, lorsqu'on parle d'aliénation parentale.
Est-ce une première pour toi, Simon, de te faire traiter de fou de Dieu?
Oui, je dirais de me faire traiter de quelque insulte que ce soit dans un colloque. C'est quand même pas quelque chose qui est très courant. Hein. Donc, il faut être vraiment dans un colloque sur l'aliénation parentale pour que ça arrive, ce genre de choses-là.
OK. Merci. La troisième question pour Hubert Van Gizegem. Dans 50% des dossiers de litige en matière de divorce, la moitié comprendrait là, des situations d'aliénation parentale. Je connais la réponse, là. C'est vrai qu'il a dit ça, mais je pense, et j'aurais beaucoup d'autres écrits là, que je peux pas juste nommer comme ça ici, mais pour dire que c'est faux, là, ce qu'il a fait, c'est faut lire un petit peu de ses écrits. Un texte là, qui a été publié dans une revue dans lequel Van Gizegem dit qu'à partir de sa propre étude, là, qui n'est pas citée, donc je ne sais pas à quelle étude il réfère, mais selon lui, la moitié des dossiers de litige, donc à partir de son échantillon, de sa pratique, des situations dans lesquelles il fait des expertises psycho-légales, lui, il a dénoté des signes d'aliénation parentale, là, d'aliénation moyenne à sévère. Donc, ça aussi, je ne sais pas à quoi il réfère quand on parle de moyenne à sévère. Là. Ça fait partie aussi des multiples définitions qu'on a d'aliénation parentale. Donc, c'est vrai qu'il a dit ça. Pour les personnes qui sont curieuses et qui ont la patience de lire des genres d'écrits comme ça, là, dans lesquels on cite la Bible, la méthodologie. Donc, c'est ça, vous pourrez là, vous référer à ces écrits, mais moi, je ne le ferai plus. C'était juste en préparation du balado. Je ne le ferai plus. Donc, prochaine question. Au Québec, la loi sur la protection de la jeunesse reconnaît l'aliénation parentale comme forme potentielle de mauvais traitement psychologique. Est-ce que c'est vrai, ça?
Mais c'est super intéressant, puis j'espère qu'il y a des gens de la protection de la jeunesse et autres qui nous écoutent présentement, parce que c'est faux. Le concept d'aliénation parentale n'apparaît pas dans la loi de la protection de la jeunesse. La notion du conflit sévère de séparation non plus. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on a entendu à de multiples reprises par des professionnels, des intervenantes et même des chercheurs dire que c'est dans la loi. Et je ne sais pas pour vous, là, mais moi personnellement, j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi ces gens-là avancent le fait que c'est dans la loi alors que clairement ce ne l'est pas. Est-ce que c'est de la mauvaise volonté? Est-ce que c'est un manque de rigueur intellectuelle? Je pourrais pas vraiment répondre, mais peu importe leur intention, à l'heure actuelle, ce n'est pas dans la loi. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. La loi, elle est en ligne, elle est disponible. On ne retrouve pas le concept d'aliénation parentale dans la loi, malgré ce qu'on peut nous dire. Donc, la réponse, c'est faux.
Et j'ajouterais quand même qu'il y a eu... récemment, on a l'Assemblée nationale au Québec a adopté le projet de loi 15 qui réforme la loi sur la protection de la jeunesse. Il y a eu un certain nombre de discussions par rapport à ce qu'on devrait inclure d'une façon ou d'une autre le concept d'aliénation parentale dans la loi sur la protection de la jeunesse. Et la décision a été, je dirais très heureusement, qu'on n'irait pas là. Et le ministre Carman même s'est prononcé très clairement à l'effet que ce concept-là est beaucoup trop controversé et comme il ne fait pas l'objet d'aucun consensus, là, notamment scientifique, que ce n'était pas approprié de l'inclure dans la loi sur la protection de la jeunesse. Et je suis totalement d'accord avec lui sur ce point.
Un soulagement aussi.
Absolument.
Parfait. OK. Et dernière question, on va terminer en beauté. Les mères sont capables d'aliéner leur enfant de façon inconsciente, voire par télépathie. Vrai ou faux?
Vrai. En fait, c'est probablement faux, mais c'est clairement une des choses qu'on voit lorsqu'on analyse des situations où des femmes ont été accusées d'être aliénantes. Et je pense que ça illustre un peu l'absurdité parfois de comment on utilise ce concept-là à toutes les sauces. C'est qu'on se retrouve avec des situations où effectivement, on n'a rien à nécessairement reprocher aux femmes. Hein. On dit elles sont exemplaires sur le plan de leur capacité parentale, elles répondent aux besoins des enfants, elles priorisent le besoin de leurs enfants, mais inconsciemment, elles font probablement de l'aliénation parentale puisque c'est la seule chose on considère qu'ils pourraient expliquer les réactions de l'enfant et le fait que leur enfant ne veulent pas voir leur père. Donc, cette idée-là qu'elles transmettent inconsciemment de l'anxiété, qu'elles aliènent de manière inconsciente, ça a l'air complètement fou, mais on l'a vu, on le voit dans certaines situations. Et on a vu des situations aussi où on continue de reprocher aux mères d'être aliénantes, d'influencer les enfants, même si dans certains cas, elles ont eu zéro contact avec leurs enfants depuis 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Et parce que les enfants continuent de dire qu'ils ne veulent pas voir leur père, on continue de reprocher à la mère d'être aliénante, alors que elle a eu, dans certains cas, ils ont eu zéro contact, le direct ou indirect, avec leurs enfants depuis plusieurs mois. Donc, il y a quand même un côté absolument absurde à tout ça qui s'illustre vraiment dans ce genre de situation-là.
Et on n'est pas loin de l'astrologie, là, puis ces affaires-là.
Quelque chose d'un peu ésotérique, à la limite.
Oui.
Et c'est repris dans des jugements, quand même.
Oui.
C'est assez particulier. Merci Isabelle et Simon pour votre participation à ce merveilleux quiz. Pour les auditeurs, les auditrices, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et surveillez aussi notre site web. On publie nos publications là, relatives à nos divers projets de recherche, incluant nos recherches sur l'aliénation parentale et la violence conjugale.